l'édition avec Marion Kazanov à la une. Mayotte où Emmanuel Macron vient d'atterrir. Le reportage à Mamoudzou de Lisa Morisseau à suivre à 8h. Pour l'instant, il est 7h43. Et on est avec Victor Missistrano pour l'Info Sport. Bonjour Victor.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Pour commencer, du foot en Angleterre, Liverpool se rapproche un peu plus du titre de champion.
Oui, ce n'est plus qu'une question de jour pour Mohamed Salah et sa bande. Vainqueur à Leicester hier 1-0 grâce à un but de Trent Alexander-Arnold. Les Reds ont toujours 13 longueurs d'avance sur Arsenal à 5 journées de la fin. Tandis que Nottingham Forest s'essouffle longtemps sur le podium. L'équipe surprise de la saison n'est plus que sixième et reste sur 2 défaites avant de jouer à Tottenham ce soir avec l'opportunité de retrouver la 3e place. Blessé au mollet, le Nigérian Ola Aina était absent lors de ses 2 revers et cela s'est fait sentir. Baptiste Leduc.
Il n'est peut-être pas le plus décisif de son équipe, mais Ola Aina est un rouage essentiel de la machine Nottingham Forest. Avant sa blessure, le Nigérian était même le joueur de champ le plus utilisé par Nuno Espirito Santo. Le coach portugais attend son retour avec impatience, mais il ne prendra pas de risque avec le latéral de 28 ans.
On va évaluer son état. Ola ne s'est pas entraîné cette semaine, il restait quelques problèmes. On regarde au jour le jour.
La 3e meilleure défense de Premier League a besoin d'Ola Aina pour bien terminer la saison avant de penser à l'avenir. Le latéral nigérian aux 40 sélections avec les Super Eagles arrive en fin de contrat en juin et selon plusieurs médias britanniques, Liverpool surveillerait de près sa situation pour remplacer Trent Alexander-Arnold en cas de départ pour Madrid. Mais il faudra convaincre Aina de quitter un club où il s'épanouit.
Moi j'espère rester, je m'amuse vraiment bien ici, j'aime les joueurs, le staff, les gens, le cadre est super, donc j'espère rester longtemps.
Pour retenir son défenseur, une qualification en Coupe d'Europe serait bienvenue pour Nottingham.
Alors, les précisions signées Baptiste Leduc avant Tottenham-Nottingham, coup d'envoi 19h, temps universel.
Les demi-finales des Coupes d'Afrique ont débuté ce week-end. Après la Ligue des Champions samedi, c'était au tour de la Coupe de la Confédération africaine hier.
Après cette première manche, la RS Berkane a déjà un pied en finale. Large succès du club marocain sur les Algériens du CS Constantine, 4-0. Le Simba SC poids lourd tanzanien a pris une petite option, 1-0, contre l'équipe sud-africaine de Stellenbosch. Un but inscrit par l'ivoirien Jean-Charles Ahoua. Rendez-vous samedi, Andréane, pour les demi-finales. Retour de cette Coupe de la CAF.
Autre compétition continentale, mais sur les parquets, la Basketball Africa League se poursuit.
Il reste 12 équipes réparties en 3 conférences. Celle de Kalahari a déjà eu lieu au Maroc. Et Al Ittihad d'Alexandrie et les River Soopers de Nigeria ont décroché un ticket pour les quarts de finale, tandis que le FUS de Rabat espère toujours un strapontin parmi les meilleurs 3e. Samedi prochain, c'est la conférence Sahara qui va débuter à Dakar et on retrouvera les Capverdiens de Criol Star, les Angolais du Petro de Luanda, le club tunisien de l'US Monastir et enfin la SC Ville de Dakar qui jouera donc à domicile. Signe que le basket sénégalais continue sa progression. Invité de Mondial Sport hier, le sélectionneur de l'équipe de France féminine, Jean-Aimé Toupane, né au Sénégal, s'en réjouit.
C'est une très très bonne chose déjà, de voir que le basket à ce niveau-là, le Sénégal en fait partie. Ce projet de balle d'arriver en Afrique est quelque chose d'extraordinaire pour le sport et plus en particulier pour le basket. C'est pas par hasard que la NBA a investi autant à la balle avec une académie à Dakar, avec son bureau maintenant au Sénégal, qui était à l'époque à Johannesburg. On voit qu'il y a une vraie volonté parce qu'on a quand même des profils de très très haut niveau au Sénégal et de voir que ça évolue tous les ans, c'est une bonne chose. J'espère que le club de Dakar réussira en tout cas à gagner. Moi je suis supporter du basket sénégalais.
Jean-Aimé Toupane au micro de Cédric De Oliveira.
Victor Missistrano, RFI, tout de suite l'actualité internationale de ce lundi en une minute.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mellard.
Il est arrivé il y a un peu plus d'une heure en Inde, le vice-président américain J.D. Vance en visite dans le pays pour 4 jours et l'idée c'est notamment d'évoquer la guerre commerciale et les droits de douane imposés par Washington pour l'heure en pause en ce qui concerne New Delhi. Le président Emmanuel Macron, lui, vient d'atterrir à Mayotte, début d'une tournée de 5 jours dans l'océan Indien et il commence, le président français, par ce territoire dévasté par le cyclone Chido il y a 4 mois. Les attentes sur place sont nombreuses. Rose, notre envoyé spécial, nous fait vivre ce déplacement. Ce sera notre dossier à 9h. C'est à minuit tout à l'heure qu'a pris fin la trêve en Ukraine, décidée par la Russie pour les fêtes de Pâques, une cessation des hostilités que Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'avoir violée. Et ce lundi, déclaration du gouverneur de la région ukrainienne de Dnipropetrovsk, l'armée russe a lancé des drones sur la région. Fin de citation. En République démocratique du Congo, les suites de la visite à Goma de l'ancien président Joseph Kabila, soupçonné de lien avec la rébellion AFC M23, les activités de son parti, le PPRD, sont suspendues et le ministre de la Justice dit avoir ordonné des poursuites judiciaires. On y revient dans nos différentes éditions ce matin. Et puis l'armée israélienne a admis hier une erreur après une enquête interne menée sur la fusillade qui a coûté la vie à 15 secouristes palestiniens dans la bande de Gaza en mars dernier. Le Croissant Rouge palestinien parle d'un rapport mensonger et la défense civile palestinienne dénonce ce lundi des exécutions sommaires et accuse Israël de chercher à contourner le droit international. RFI, notre grand invité Afrique ce matin, qui confirme la volonté du pouvoir en Centrafrique de dialoguer avec l'opposition avant la présidentielle de décembre prochain. Nouveau signe d'ouverture alors que le 30 mars dernier, déjà le président Touadéra avait dit à demi-mot qu'il entrouvrait la porte à ce dialogue. Ensuite, c'est une manifestation à Bangui de l'opposition qui a été autorisée. Le ministre conseiller spécial Fidel Guanchika est en ligne de Bangui. Il répond à Christophe Boisbouffier.
Fidel Guanchika, bonjour.
Bonjour.
Le 4 avril dernier, l'opposition a organisé à Bangui une manifestation que vous aviez d'abord interdite et que vous avez finalement autorisée. Est-ce le signe d'une décrispation politique ?
C'est le ministre de l'Intérieur qui a pris de son côté sans aviser le Conseil des ministres et qui a interdit cette manifestation. Et le président de la République a tapé du poing sur la table et a instruit le ministre de l'Intérieur d'accorder au BRDC leur marche. Et donc, je pense que c'est un signe continuel de décrispation parce que le président a toujours tendu la main à l'opposition dite démocratique.
En décembre dernier, le président Touadéra a exhorté les opposants à faire preuve de maturité politique, sous-entendu à ne pas boycotter l'élection de décembre prochain. Mais est-ce que cet appel à la raison ne serait pas mieux entendu si vous donniez votre accord à l'ouverture d'un dialogue politique ?
Écoutez, le président de la République vient de marquer son accord pour l'organisation d'un dialogue politique avec le BRDC. Mais le président de la République ne va pas s'asseoir avec les leaders de l'opposition démocratique autour d'une même table pour faire ce dialogue parce que ces opposants-là ne sont pas à son niveau. C'est le gouvernement qui sera appelé à les attendre et certainement d'autres institutions républicaines qui vont s'asseoir avec eux pour discuter de cette affaire-là.
Donc il y aura un dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition du BRDC, le Bloc Républicain pour la Défense de la Constitution.
Bien sûr, il faut bien dire que 4 leaders de l'opposition demandent à ce qu'on revienne à la Constitution de 2016. Mais c'est une aberration, monsieur le journaliste. On a vu ça dans quel pays du monde ?
Et au niveau du gouvernement, qui pourrait participer à ce nouveau dialogue politique ?
Ben, on attend du BRDC les points qu'ils vont soulever pour que le gouvernement s'attelle déjà sur ces points-là.
Alors, l'une des requêtes de l'opposition, ce sont des élections inclusives. Et est-ce qu'au terme de ce dialogue politique, les candidats Anissé Georges de Loguélé, Crépin Boligoumba et Dominique Yandoka, qui sont actuellement binationaux, pourront être candidats ?
Mais la seule condition, c'est qu'ils renoncent à leur nationalité le plus rapidement possible pour qu'ils restent dans le délai pour briguer la magistrature suprême de l'État. C'est simple. Prenez l'exemple du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du monde entier.
Donc oui à un dialogue politique.
Le président a marqué son accord et on verra peut-être que c'est Fidel Guanchika qui conduira les pouvoirs publics comme d'habitude et on verra.
Donc vous pourriez diriger la délégation du gouvernement dans ce futur dialogue politique ?
J'en ai la capacité et les compétences.
Si Faustin Archange Touadéra se représente au mois de décembre prochain et se fait réélire, est-ce que vous ne craignez pas que plusieurs opposants comme Martin Ziguélé ne dénoncent la présidence à vie d'un Bokassa sans empire ?
Écoutez, son opposition, le BRDC le fait dans les chancelleries occidentales. Ils tiennent leur réunion au café de Paris. il s'agit d'une élection inclusive. Il ne s'agit pas d'une présidence à vie, il ne s'agit pas d'un Bokassa sans empire, ça c'est insulter la mémoire de Bokassa, et voilà.
Alors vous dites que l'opposition fait ses réunions dans les chancelleries occidentales et à Paris, mais cette opposition réplique que vous êtes sous la tutelle du groupe russe Wagner, qui pille les ressources minières de la République centrafricaine, et notamment la grande mine d'or proche de Bambari.
Écoutez, ça c'est un disque rayé, vous savez très bien que la République centrafricaine a signé une convention militaire et économique avec la Fédération de Russie. Et les Wagner ont sauvé la démocratie de la République centrafricaine en évitant un coup d'État qui pourrait engendrer un génocide. Et nous ne sommes pas sous tutelle de Wagner. La Russie viendra avec nous. Nous allons commencer à exploiter nos richesses minières, nos pétroles, et comme ça, la République centrafricaine sera dans un temps à moins terme un pays émergent.
Donc votre principal allié reste la Russie.
Mais nous avons la Russie, nous avons la Chine, nous avons les États-Unis, nous avons les pays arabes, nous avons le Rwanda, nous avons tous les pays de l'Afrique et nous avons encore la France qui cherche à revenir par la petite porte, qui invite ça et là le président Touadéra, qui pense que elle peut corrompre le président Touadéra. Non, 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 nous avons les yeux ouverts.
Monsieur le ministre, merci.
En ligne de Bangui avec Christophe Boisbouvier, Fidèle Gwandjika, ministre conseiller spécial en Centrafrique. RFI, notre chronique matière première. On parle à nouveau ce matin de la filière de l'anacarde, de la noix de cajou. On parlait la semaine dernière des mesures prises au Sénégal pour la filière. Parlons ce matin de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cajou. 4 mois après le début de la campagne de commercialisation et malgré un contexte commercial mondial tourmenté, les acteurs perçoivent des signes positifs. À Abidjan, Binta Diagne nous en parle.
Premier signe positif, dès le début de la campagne en janvier, le prix Borchan de la noix brute de cajou a été rehaussé. Il est passé de 275 à 425 francs CFA le kilo, de quoi valoriser les paysans qui cette année ont vu leur production augmenter de 20%. Selon les projections du ministère de l'Agriculture, la production devrait s'établir à un peu plus d'un million de tonnes de noix brute. 900 000 tonnes ont déjà été achetées auprès des producteurs. Par ailleurs, du 18 janvier au 15 mars, le marché a été ouvert en priorité aux transformateurs locaux. Cela nous a permis d'avoir accès à une noix de bonne qualité et d'éviter la concurrence avec les exportateurs internationaux, commente un entrepreneur. En tout, 36 usines en activité ont pu être approvisionnées. Elles ont pu absorber près de 600 000 tonnes de noix brutes. Seule ombre au tableau, les nouveaux tarifs douaniers imposés par les États-Unis, révisés à la hausse et que Washington a temporairement suspendu. Les opérateurs du Vietnam, taxés à près de 47%, sont inquiets. Cela a ralenti les choses, affirme Kobenan Kwasi Adjoumani, le ministre ivoirien de l'Agriculture. En clair, il y a moins d'engouement autour des ventes car une grosse partie de la production est achetée par le Vietnam qui exporte ensuite l'amande de cajou vers les États-Unis. Face à la retenue des acheteurs, locaux comme internationaux, les producteurs bradent leurs noix brutes. La situation est bloquée, peste un producteur qui regrette le non-respect des prix officiels ces 2 dernières semaines. Des solutions vont bientôt être prises, assure le ministre ivoirien de l'Agriculture qui demande aux paysans d'être patients. De son côté, pour faire respecter le prix plancher, le conseil coton anacarde organise des ventes groupées dans les zones où les acheteurs se font rares.
Binta Diagne, Abidjan pour notre chronique matière première.
RFI Matin.
RFI, votre grand reportage à écouter chaque jour sur notre antenne et nos plateformes. 20 minutes qui nous emmènent aujourd'hui en Colombie, l'un des pays au monde les plus riches en biodiversité. Et cet État d'Amérique du Sud a déjà atteint l'objectif international de protéger 30% de son territoire pour préserver ce monde vivant de la disparition en cours. Mais sur le terrain, après des décennies de conflits avec des guérillas, les gardes des parcs naturels font face à de nombreux défis. En octobre dernier, en pleine COP16 biodiversité à Cali, RFI a pu explorer les montagnes protégées qui surplombent la 3e ville du pays, Colombie, avec les gardes du parc naturel des Farallones de Cali. C'est un grand reportage de Lucille Gimbert. En voici un extrait.
Avec Gustavo, le biologiste, nous descendons à pied en direction d'une cascade sur la même rivière Pichindé, les mains accrochées aux arbres pour ne pas glisser sur le sol boueux.
On traverse une petite rivière. À quelle altitude on est là? On est à
1900 mètres, presque 2000 mètres d'altitude.
On marche entre les racines des arbres, il y a beaucoup de feuilles en décomposition, c'est assez humide.
Autour de nous, de grandes fougères arborescentes, des arbres de fleurs de mai et des arbustes dont les fruits régalent les chauves-souris. Assis sur les rochers au plus près de la cascade, Jaime Millán pointe vers le haut un arbre aux feuilles larges.
Tu as vu quelque chose ?
Cet arbre-là, à sa pointe, il a une grappe, ce sont ses fruits. Et là, il y a une fleur rouge où un colibri est en train de manger. Il vient juste de bouger.
Les gardes voient ce petit oiseau multicolore. Pour moi, il reste dissimulé dans l'enchevêtrement des arbres.
Pues dicen que cuando ya estás acostumbrado a los tonos de verde.
On dit que quand tu t'habitues aux différents tons de vert, tu commences à percevoir des contours ou des mouvements très subtils. Les observateurs d'oiseaux ont la vue particulièrement éduquée pour ça. Pour d'autres, c'est l'ouïe. C'est ce qui donne aux gardes du parc cette sensation de connexion avec la nature. Quand tu entres dans la forêt, que tu perçois au loin le chant d'un oiseau spécifique qu'une autre personne n'arrive pas à percevoir. Pour moi, la connexion avec cette zone naturelle, c'est ça. L'eau. Écouter l'eau. Sa force, sa pureté. C'est mon père qui m'a appris à aimer la nature. Et dans ses remous, je le vois nager, je vois son sourire. Là, ce sont ses éclats de rire.
Second reportage de Lucille Jambert à écouter en intégralité sur RFI à 19h40 et à 3h10, temps universel.
Appelez-nous, exprimez-vous. Namoury Dosso.
À l'issue de la convention de son parti, Tidiane Thiam a été désigné candidat du PDCI RDA pour la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Quelles sont ses chances ? Pourra-t-il rassembler l'opposition derrière sa candidature ?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.